m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Michaël Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. L'affiche est partout dans le métro parisien. Trois actrices qui nous regardent les yeux dans les yeux. À gauche, Annabelle Langrone, brassière jaune et mini-jupe zippée, négligemment appuyée sur l'épaule de sa voisine, Noémie Lvovsky, chemise en jean ouverte à mi-hauteur sur un bustier noir pigeonnant. Et à droite, Sarah Forestier qui tire une mèche de ses cheveux blonds surmontée d'une couronne de fleurs. Tout en haut, un slogan qui sonne comme un clin d'œil à une petite phrase malheureuse du président de la République. Il ne suffit pas de traverser la rue pour s'en sortir. Le titre, Fille de joie, un film de Frédéric Fontaine et Anne Policevitch, ils sont tous les deux en ligne avec nous, ainsi qu'Annabelle Langrone qui incarne une des trois héroïnes. Fille de joie est à découvrir sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Il y a une mention que j'ai pas signalée encore. Elle se trouve tout en bas de l'affiche, hein, qu'on croise donc en ce moment dans Paris, au cinéma, le 18 mars. Sauf que le 18 mars, eh ben, on était en plein confinement, les salles étaient fermées, la sortie du film avortée est donc finalement repoussée. Frédéric Fontaine, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce faux départ?
Finalement, pas si mal, parce que nous, on a été comme tout le monde, on s'est retrouvé confinés, et on se disait, ça sert à rien que le film sorte à ce moment-là, et puis on s'est dit, on va faire comme les autres, on va attendre que ça passe, on sait pas si c'est vraiment tout à fait passé, et maintenant, les salles réouvrent, et on le vit assez bien aussi, on l'a vécu un peu comme tout le monde, hein, ce confinement, voilà.
Oui, ça vous oblige à recommencer la promo, quand même, Annabelle Langrone.
C'est pas recommencer la promo, c'est la commencer, puisque quand le film devait sortir donc au mois de mars, moi j'étais en tournage, et donc je suis très contente de pouvoir justement défendre ce film maintenant, quoi.
Il fallait qu'il ressorte maintenant, parce que choisir cette date du 22 juin, c'était pas si évident que ça, Anne Policevitch.
Non, mais en même temps, c'est... ce qui est super, c'est que ça fait partie de l'événement aussi de la réouverture des salles, donc... C'est quand même quelque chose, quoi, de se dire que les gens, ils peuvent retourner dans les salles et voir ce film, justement. Et je trouve que c'est une super belle gageure des distributeurs de se dire, on profite de la réouverture pour remettre ce film qui est effectivement resté dans les métros parisiens, comme vous le dites, pendant tout le confinement pour le reproposer aux gens.
Alors, vous êtes allé faire un petit tour dans les salles. Vous avez eu des échos de la façon dont ça se passe, Frédéric Fontaine?
Nous on est resté en Belgique, mais on a eu des échos. Il y a des gens qui on a des gens qui ont été dans les salles, et franchement déjà à la première séance au Hall, on était les premiers parmi les spectateurs qui ont été voir ce film, donc on était déjà super contents.
Oui, c'est important, parce que la première séance des Halles, c'est ce qui donne le là, hein. C'est le thermomètre qui permet de savoir dès le premier jour si un film a des chances de très bien fonctionner ou pas.
Disons qu'en tout cas, on a senti qu'il y avait un désir, et il y a des gens, qu'on connaît pas, qui ont eu envie d'aller voir le film, et nous, ça nous a fait, énormément plaisir. Parce que là, maintenant, nous, on peut plus rien faire. On s'est battu pour, il y a énormément de désir et énormément de puissance dans le film, et maintenant, il appartient aux gens qui vont le voir.
Oui, alors ça, c'est ce que disent toujours, effectivement, les artistes, les réalisateurs, et les comédiens aussi, Annabelle Langrone. Comment est-ce que vous vivez, justement, la sortie d'un film? Pour vous, c'est une histoire très, très ancienne, parce qu'évidemment, il a été tourné, il y a très, très longtemps, et il faut que le film vive sa vie, ou bien est-ce que c'est un nouveau départ pour ce que vous proposez au public?
Moi, déjà, je suis extrêmement fière quand un film sort, et ce film-là, donc oui, on l'a tourné effectivement il y a 2 ans. J'ai une histoire particulière avec ce film parce que j'ai pu reproduire la vie de personnes réelles, vivantes. Voilà, c'est une fiction, mais qui s'inspire de la réalité et de vraies tranches de vie. Et donc, je suis extrêmement fière qu'on puisse enfin présenter ce film avec tout ce qui s'est passé, confinement, tout ça. C'est une fierté, et je suis curieuse d'avoir les retours des uns des autres par rapport au travail qu'on a tous fait sur Fille de joie, quoi.
Karine !
Allez, vas-y, s'il te plaît !
Enlève-moi ce maquillage.
Mais tu ressembles à mamie, là.
Pas ça.
J'ai besoin d'un nouveau téléphone.
Parle-moi comme ça, tu l'auras ton téléphone.
Hey, mademoiselle, tu veux pas me sucer 5 minutes ou quoi ?
Tu peux demander à ta mère, non ?
C'est bon.
Bonjour madame, comme j'ai expliqué à votre mari...
Donc déjà c'est pas mon mari.
C'est mon fils.
C'est notre fils. Et c'est moi qui la garde.
Quand on n'a même pas le bac, on peut pas espérer décrocher la lune. Et...
Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 les trois quarts d'heure.
Plus vite.
T'étais où la nuit dernière?
Toi, t'étais où?
Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics.
Moi, j'ai des rêves, ok? Moi, j'ai toute la vie devant moi.
Sale pute.
Putou.
Je t'ai fait un prix.
Vous vous connaissez?
T'es la babysitter de mes enfants.
Et ces filles de joie, elles s'appellent donc Axel, Dominique et Conso. Axel, c'est Sarah Forestier. Dominique, c'est Noémie Lovski. Et Conso, c'est vous, Annabelle Langrande. Trois personnages qui vivent dans la même cité, qui se retrouvent sur le parking de cette cité pour prendre la route et aller travailler dans une maison close en Belgique, de l'autre côté de la frontière, là où les maisons closes sont légales. Annabelle Langrande nous disait il y a un instant, Anne Polisevitch, que les personnages étaient inspirés de personnes réelles. Ça veut dire que la situation, ça veut dire que l'histoire que vous racontez raconté dans Filles de joie est inspiré de ce que vous avez vécu?
Alors, en fait, Filles de joie, c'est vraiment une fiction. C'est-à-dire que j'ai écrit une fiction par rapport à un désir de ce dont je voulais parler, qui était l'héroïsme des femmes, la solidarité, la précarité aussi, la violence faite aux femmes. Et j'ai lu un jour un article qui parlait de ces femmes qui traversaient la frontière et qui menaient une double vie. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit que c'était par là que j'avais envie d'aller. Et donc, j'ai écrit une fiction à partir de ça, mais je me suis dit que je pouvais pas aller plus loin dans la fiction si je ne connaissais pas le milieu, si je ne rencontrais pas ces femmes, parce que je pense que notre imaginaire est tellement plein de fantasmes par rapport à ce qu'est la prostitution que voilà, je voulais aller au-delà des clichés tout en utilisant aussi les clichés qui font partie de la vie, et donc je me suis dit qu'il fallait effectivement que j'aille les rencontrer, et j'ai réussi à rentrer dans ce milieu, à rentrer dans les bordels et à passer... Et en fait, elles m'ont accueilli avec la fiction aussi, ces femmes. C'est-à-dire, je leur ai expliqué ce qu'était le film, ça leur a plu et il y a un bordel ou quoi. Je sais que le mot bordel, c'est pas très politiquement correct, mais une maison close qui où en fait, je suis restée pendant plusieurs mois, deux à trois fois par semaine, pendant tout le temps de l'écriture, et après, c'est une relation qui s'est continuée avec ces femmes tout du long du processus de la création du film.
Et dès le départ, il s'agissait donc de tourner une fiction. Il a jamais été question pour vous de tourner un documentaire pour pouvoir témoigner?
Non. Non, parce que je pense que Fred, il le dit beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que la fiction peut aussi, des fois parler plus de la réalité que même presque qu'un documentaire, c'est-à-dire, Fred, il peut mieux le dire, j'arrive pas bien à le dire.
Eh bien, on va lui poser la question. Vous lui tendez la perche, Frédéric Fontaine.
Mais oui, parce qu'il dit mieux.
Non, mais c'est vrai que je pense qu'on n'aurait pas pu faire un documentaire sur ce sujet, parce que forcément, ces femmes qui vivent une double vie n'ont pas envie qu'on sache qui elles sont. Par contre, le fait que ça passe par la fiction, elles pouvaient aussi se livrer plus à Anne et on parle plus véritablement d'elles. Je crois que la vérité a une structure de fiction aussi, et je pense que la fiction peut aussi aller à un endroit de vérité qui est un endroit qu'on ne montre pas. L'endroit qu'on filme dans le film, qui est le salon où elles attendent, c'est un endroit où personne ne va jamais. Ce sont des femmes dont on ne parle pas, en tout cas pas de l'angle sur lequel on les regarde. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant, c'est d'avoir mis en lumière un endroit qui en principe est totalement invisible, ou même un documentaire ne pourrait pas se faire.
Mais comment est-ce que vous avez intégré cet endroit, Anne Polisevitch? Parce que j'imagine que vous n'avez pas sonné à la porte en disant « Coucou, je voudrais amener une caméra à cet endroit et discuter avec vous ».
Oui, non, absolument pas. Et surtout, faut savoir que je suis jamais venue d'ailleurs avec une caméra, ni un appareil photo, ni un bloc-notes, rien du tout.
Ah, même pas un bloc-notes?
En fait, non. J'ai jamais pris de notes. Non, j'ai été avec elle dans le salon, dans cet endroit effectivement assez étrange hors du temps, et voilà. Et j'étais là avec elle.
Mais vous avez eu un contact qui vous a permis d'entrer.
En fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, j'ai cherché comment rentrer, et j'ai essayé d'être. J'étais stagiaire assistante sociale, mais je me retrouvais à faire le tour des maisons closes autour de Charleroi. Mais c'était pas du tout une manière de rentrer dedans. Quelque part, c'était très extérieur. Et puis un jour où je rentrais justement d'une tournée en tant que stagiaire entre guillemets, j'ai rencontré une amie. Et je lui parlais de ce que j'avais fait dans la journée. Elle m'a dit, voilà, l'anecdote, elle m'a dit, ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? J'ai mon cousin, c'est le neveu de Dodo La Saumure.
Donc Dodo La Saumure, c'est le proxénète qui a été impliqué en particulier dans l'affaire du Carlton de Lille, hein, celle dans laquelle Dominique Strauss-Kahn a été aussi mis en cause.
Voilà. Et en fait, bah, ça a été très rapide. Je suis rentrée en contact avec lui et je l'ai rencontré. Je lui ai expliqué le projet et je lui ai dit qu'il m'intéressait pas du tout, lui. Que ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans les maisons et de rencontrer les femmes et d'être avec les femmes. Et il m'a dit qu'il allait leur demander. Et ça, et voilà. Et en fait, je suis rentrée comme ça dans plusieurs bordels et il y a un endroit qui, justement, appartenait à une femme, qui était dirigée par une femme, entre guillemets, mais qui était aussi une prostituée, une très jeune femme. Et voilà. Et il y a une rencontre qui s'est faite dans cet endroit-là, au moment où je suis rentrée. Et lui, après, a disparu. En fait, je l'ai plus vu. Et donc, ça a été vraiment la relation qui s'est créée entre ces femmes et moi, et ces femmes et moi sur plusieurs mois, mais aussi des fois dans des instants très, très sporadiques. C'est-à-dire qu'il y a des femmes que j'ai rencontrées qu'une journée ou une nuit, mais vu qu'elles savaient l'histoire, vu qu'elles savaient qui j'étais, vu que ça circulait entre toutes, en fait, ce qui était assez, assez incroyable, c'est que le fait de savoir qu'elles allaient passer par la fiction, ça leur permettait aussi de pouvoir, raconter les choses.
Et vous aussi y avez...
pouvoir m'offrir d'être avec elles et d'être dans leur vie, du bordel, quoi.
Et vous avez aussi emmené vos actrices dans cette maison close.
Oui, c'est ça. Après tout le processus d'écriture, je vous dis, on est toujours resté en contact. Moi, j'y suis retournée quelques fois. Et en fait, dans la préparation du film, on s'est dit que ce lien entre la réalité et le fictionnel, on voulait vraiment continuer à travailler dessus. Ça nous paraissait très important. Et donc, chaque chef de poste et chaque actrice qui interprétait une femme, une travailleuse du sexe, est venue avec moi, évidemment à chaque fois avec l'accord des femmes là-bas, au bordel.
Alors comment ça s'est passé pour vous
du temps avec elle.
Alors comment ça s'est passé pour vous, Annabelle Langrande? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a surpris?
Moi, ce qui m'a, bah, en fait, on est parti avec Anne la première fois donc que je suis allée visiter la maison close. On est parti, c'était le 14 juillet. Anne, je sais pas si tu te rappelles.
C'était, oui, je me souviens bien.
assez spécial parce que on arrive dans une maison qui ressemble à une maison familiale, hein, voilà, un peu perdue et en fait on arrive dans un salon où il y a des femmes, très belles femmes qui se pomponnent un peu, qui sont au téléphone et en fait il y avait des caméras un petit peu, enfin des écrans de surveillance et quand ça sonnait, il y en a certaines qui partaient et qui revenaient dans ce salon. Et moi, j'étais quand même là pour préparer un rôle. Donc, je ne pouvais pas venir avec un bloc-notes, voilà, comme a dit Anne, parce que ça me paraissait très impoli, très froid, et il fallait surtout s'imprégner de l'ambiance, en fait, de cet endroit. Et moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'est la légèreté, entre guillemets, qu'elles avaient, en tout cas, elles voulaient vraiment, moi, me mettre à l'aise parce que je n'étais pas du tout. Parce qu'en tant que femme, être dans un endroit où on sait que, voilà, elles travaillent avec leur corps, et je pense pas qu'à chaque fois, il y ait des choses très agréables à faire. Moi, ça me pétrifiait complètement, et elles étaient aux petits soins avec moi, et donc, j'étais impressionnée par cet altruisme, et aussi par la froideur. En fait, du fait de se lever, d'aller faire une passe et de revenir et d'attendre la prochaine. Et voilà, c'était très nouveau pour moi. Et c'était très impressionnant. Et après cette journée quand même très spéciale, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Parce qu'il y a toutes les ondes, toutes les souffrances qu'elles ne disent pas. Parce que ça, elles en ont pas vraiment parlé. Mais ça se ressent beaucoup. Et je me suis dit, ok, il va falloir être à la hauteur pour retranscrire ça dans le rôle qu'on m'a confié.
Mais alors justement, dans quelle mesure voilà. Le personnage de Conso a-t-il été nourri par ces journées très particulières que vous venez de raconter?
Alors moi, j'ai rencontré une travailleuse du sexe en particulier qui s'appelle Sacha. Voilà, je dis son prénom parce que c'est elle qui m'a inspiré Conso. Et c'était quelqu'un qui était tellement drôle, c'était un clown, quoi. Elle faisait partie, voilà, de ces personnes qui voulaient me mettre à l'aise, qu'elle avait, elle m'a parlé de sa famille qui habitait loin, de ses enfants qui n'étaient pas avec elle, qu'elle voyait très très peu de fois dans l'année, et donc c'était complètement dramatique comme histoire, mais c'était quelqu'un de tellement drôle que moi c'est ça qui m'a plu en fait chez elle, et aussi donc c'est ça qui était intéressant à créer pour le rôle, de ne pas être que dans le misérabilisme mais aussi voir l'énergie folle qu'il y a derrière, enfin, chez donc cette femme et les autres, mais particulièrement chez elle, une énergie assez impressionnante pour faire, pour vivre au mieux tout ça en fait.
Oui, c'est vrai que Conso dans le film, c'est un personnage très solaire. Hein, c'est un personnage qui va se dévoiler, qu'on va découvrir évidemment au fur et à mesure de l'histoire. C'est la plus jeune des trois. Est-ce que c'est une vraie romantique, Annabelle Langrone?
Je pense que c'est quelqu'un de naïf et qui aimerait qu'on lui fasse vivre une histoire romantique. Je pense qu'elle a une idée du romantisme, elle a une idée de la romance, mais elle ne l'a jamais vécu et elle a envie de vivre ça. Donc elle se crée sa propre idée de la romance, de l'amour, de ce que c'est que d'être aimé. Elle se trompe hein, parce que ça en face il y a quelqu'un qui ne la voit que pour ce qu'il a envie qu'elle soit, c'est-à-dire une prostituée. Mais voilà, elle rêve beaucoup. Ouais.
Alors au départ, effectivement, elle apparaît comme la plus insouciante des trois. On va écouter un premier extrait du film tout de suite. Il y a Conso qui va arriver à la fin de la scène qu'on va entendre. Hein. Alors ça se passe dans une voiture sur le parking de la cité. Il y a Axel, donc le personnage de Sarah Forestier qui est au volant. Il y a Do, c'est-à-dire Dominique, le personnage de Noémie Lvovsky qui est assise à côté d'elle à l'avant et qui avale son petit déjeuner en matant une bande de garçons qui traînent au pied de l'immeuble. Et elles attendent Conso qui est en retard et qui va donc finir par arriver. Extrait.
Casse-noisette. Tu sais que c'est le pire, lui. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la boulangère? Les filles, hein, il les dépucelle, il les filme et il les fout à poil sur Internet. Les racailles comme eux, ils putifient les filles, c'est ce qu'ils font.
C'est pas vrai. C'est une mytho, la boulangère.
Tu crois quoi, en fait? Tu crois que c'est parce qu'ils ont pas encore leur putain de boutons qui sont sortis que c'est pas des fils de pute?
C'est des gamins, des petits gamins.
Ton fils, c'est un gamin?
Bah ouais.
De toute façon, tu sais quoi? Moi, c'est tout, hein. Moi, avant qu'elle ait 12 ans, Charline, je me barre d'ici, voilà. Ma fille, ça sera pas un steak haché.
On te dit des trucs sur ma fille?
Quoi?
Tu dis quoi? Tu dis que mon fils, c'est un Mac et ma fille, un steak haché?
Non.
La boulangère, elle t'a dit des trucs sur ma fille ou sur mon fils?
Non, Do. Non.
Alors pourquoi tu dis ça?
Mais parce que je te parle de ça, je parle de ça.
Alors, tu vois... Écoute-moi bien, parce que ma fille, c'est pas un steak haché, ça sera jamais un steak haché.
Putain, j'ai pas dit que ta fille, c'était un steak haché.
Tu l'as sous-entendu.
J'ai rien sous-entendu du tout, c'est lui, ce fils de pute, il prend les filles pour des steaks hachés. Ta fille, c'est pas un steak haché. Moi, je suis pas un steak haché, t'es pas un steak haché. C'est ça que je dis, on n'est pas des steaks hachés. Mais regarde-la, celle-là. Elle, par contre, tu vois, si elle se fait baiser dans une cave, faudra pas qu'elle vienne pleurer. Hein.
Ah, putain... Je vois ta culotte. Tu peux pas t'habiller autrement?
C'est l'été. On dirait une pute.
Elle est très intéressante cette dernière phrase de Frédéric Fontaine. On dirait une pute dans le contexte qui est celui de cette scène. Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase?
Ben nous, on a fait un film, enfin, c'est très paradoxal, c'est-à-dire que elle critique le fait que le personnage de Conso, oui, ose s'habiller dans une cité avec une mini-jupe, et que dans une cité, si on s'habille comme ça, on est traité de pute, et elle le fait. C'est un des paradoxes de ce personnage et de comment ça se passe pour une femme de s'habiller comme elle a envie, quoi. Enfin, ça, c'est une chose qui me vient.
Alors, puisqu'on parle des mots, justement, cette idée du steak haché et du Mac, bon, c'est évidemment assez drôle, même si la dispute, elle monte quand même dans les tours assez rapidement, hein, les deux personnages. Cette idée du steak haché et du Mac, c'est une invention, Anne Polisevitch, ou bien c'est vraiment comme ça qu'on parle dans les cités du Nord?
Ouais, c'est comme ça qu'on parle. C'est-à-dire que moi, j'ai été beaucoup dans les cités. En même temps que j'allais au bordel, je traversais la frontière justement et j'allais dans les cités. Où là, par contre, je racontais pas le sujet du film parce que c'était évidemment beaucoup plus touchy.
Oui.
Mais j'ai rencontré beaucoup de mères de famille en fait. J'ai rencontré très peu de jeunes filles, surtout des mères de famille. Les jeunes filles, j'avais du mal à les approcher. Elles se montraient pas trop. J'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes aussi. J'étais beaucoup avec eux. Et cette histoire de steak haché, je me souviens très bien d'une mère de famille qui m'a dit « Moi, ma fille, ça sera pas un steak haché. » Et il y avait à nouveau, effectivement, Fred, il parlait du paradoxe. Et comme vous demandiez sur le romantisme du personnage de Conso, c'est effectivement tous ces paradoxes qui font qu'on est humain. C'est-à-dire, le personnage de Conso, pour moi, c'est une grande romantique. Et moi, j'ai rencontré des grandes romantiques qui en même temps détestaient les hommes et en même temps pouvaient tomber amoureuses à tous les instants d'un homme. Et dans les cités, il y a aussi tous ces paradoxes où j'ai rencontré tellement de femmes, de familles qui en fait détestaient la cité par rapport à tout ce qu'on peut justement y mettre comme cliché sur la cité, dont certains qui sont aussi vrais, c'est-à-dire la façon dont les femmes sont regardées ou traitées, etc. Et en même temps, qui ne pouvaient pas ne pas imaginer quitter leur cité si, vous savez, on détruit beaucoup dans les cités les grandes tours et on reloge les gens. Et ben, j'ai rencontré des gens qui avaient été relogés ailleurs dans ce qui aurait pu être quelque part un peu le rêve, entre guillemets, quoi, un plus petit pavillon. Et en fait, ces femmes étaient malheureuses parce qu'elles avaient quitté aussi quelque chose qui était fort dans la cité, qui est aussi comme un village, quoi.
Alors, on l'a entendu dans l'extrait, le langage du film est assez cru, y compris dans le vocabulaire du sexe. Il est peut-être d'ailleurs plus cru dans les mots que dans les images, Frédéric Fontaine.
Bah oui, à partir du moment où on aborde ce sujet-là, ça me semblait même pas éthique de ne pas aller dans cet endroit-là, dans cette crudité-là, et surtout par rapport à ce qu'elles font, et quand elles attendent dans le salon, bah oui, il y a une crudité... Et dans ce qu'elles font, il y a quelque chose de quasi insupportable. Donc oui, je pense qu'on devait aller à cet endroit-là. On pouvait pas en faire l'économie, quoi. Ouais.
Alors il y a oui, Anne Polisevitch.
Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça a été un vrai parti pris de se dire, on n'a pas envie d'aller montrer des passes pour des passes ou des choses qui finalement sont toujours traitées dans les films sur la prostitution. On avait envie de partir de cette base de ce salon des filles. Où elles sont ensemble, et oui, il y a des gens qui sont choqués par la crudité de la parole, mais en fait, c'est bizarre comment on peut être choqué que des femmes puissent parler comme ça, alors que oui, elles se parlent comme ça, et qu'on n'est pas du tout choqué que des mecs puissent parler de cette manière, et des fois, des femmes d'une manière absolument outrageuse, quoi.
Putain, mais toi, t'es une salope. T'es vraiment une pute et une salope.
Écoute, bébé, c'est ça le métier, tu vois, parce que quand on fait... Ça fait bander les phoques, je crois.
Ah non, mais attends, je fais pas comme ça, moi.
Si, tu fais exactement comme ça.
Non. Elle met en valeur ses attributs féminins.
Exactement, alors que toi, tu fais peur, t'as vu? Attends, t'es comme ça. T'es là.
Et alors? Moi, je mens pas. Hein. On me prend comme je suis.
Mais arrête! Mais le gars, il s'en fout de qui tu es ou quoi. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est...
Oh, oui.
Voilà, grande scène d'imitation, hein, signée Noémie Lovski, Frédéric Fontaine. Oh. Le coup du chat qui aboie et qui se met à hurler à la mort, c'était prévu au départ?
Oui, parce que c'est ça qui s'est passé quand Anne est allée là-bas et elle a vu ça. Et après, ça a été toute une manière de reconstruire ça avec ses chiens qui étaient là. Ouais, c'était prévu. C'était très difficile à obtenir ce moment comme ça de grâce qui a l'air tout à fait réaliste. Mais ouais, on l'a travaillé ensemble, quoi. On l'a voulu, ouais.
Alors, c'est un moment de grâce, c'est un moment qui peut faire sourire. C'est un moment aussi qui peut mettre un peu mal à l'aise, non?
Bah oui, je pense que...
On est toujours dans cet entre-deux-là, d'ailleurs, d'un bout à l'autre du film.
Exactement. Le sujet, on peut pas faire un film là-dessus en étant à l'aise. On peut pas montrer ça pour... Mais il y a les deux, et il y a ce que Annabelle racontait, et Anne aussi, il y a effectivement il y a un malaise, il y a une immense crudité, mais il y a une puissance de vie, et moi aussi j'ai été énormément touché par la rencontre de ces femmes, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose de digne chez ces femmes aussi. Et c'est ça que je pense qu'on a voulu aussi défendre dans ce film, c'est-à-dire...
Oui, allez-y.
Mais c'est-à-dire c'est vraiment ce paradoxe et ce mélange entre quelque chose, oui, d'insupportable, une vérité insupportable, mais une puissance de vie inouïe, la lumière qui sort de l'obscurité de ce qui se passe dans ce film et dans cette réalité aussi. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre dans le film, c'est aussi de donner la lumière et la dignité qui se dégage aussi de cet endroit-là.
Mais Annabelle Langrone, cette complicité qu'on sent dans cet extrait, pas seulement dans cet extrait d'ailleurs, hein, cette complicité entre les filles, vous l'avez aussi ressentie dans la réalité, parce qu'on se dit que ces prostituées, elles sont certes collègues, mais elles sont aussi en concurrence quand le client se présente.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a, donc des clients. Moi, quand j'étais allée visiter donc la maison close avec Anne, qui ont des préférences. Voilà, il y en a qui préfèrent les blondes, les noires, voilà. Mais si elles arrivent du coup à partir en chambre avec un client et à faire plusieurs spécialités, on va dire, évidemment qu'elles gagnent plus d'argent. Et donc, pour revenir sur les gémissements où vous disiez que ça pouvait mettre mal à l'aise, c'est aussi leur travail. Ce sont des professionnels. Moi, elles m'ont dit, enfin, que le client arrive, il suffit qu'elle gémisse d'une telle ou telle manière ou qu'elle le regarde d'une telle manière, ça y est, le client est en érection et donc la passe passe plus vite et elles peuvent donc continuer après leur travail. Donc, ce sont des professionnels, quoi.
Alors, je vais rebondir sur ce que disait Annabelle Langrone à l'instant, Frédéric Fontaine. Il y a des clients qui préfèrent les blondes, il y en a qui préfèrent les noires. Est-ce qu'il fallait une blonde et une noire dans votre casting?
Je ne sais pas quoi répondre à ça.
Moi, je crois
ouais, que... Oui, toi, Anne, vas-y.
Ouais, bon. C'est-à-dire qu'en fait, oui, nous, on avait quand même... moi, je voulais raconter des histoires de femmes. Je suis pas partie dans l'idée, je vais raconter des histoires de prostituées. J'étais pas partie dans l'idée, je vais faire un film sur la prostitution. C'est venu parce que, je vous dis, il y a eu cette rencontre. Et voilà. Et en fait, tout d'abord, ce sont des histoires de femmes. Et j'avais envie de raconter aussi différents âges, différentes situations. Et très vite, il y avait le personnage de Conso, qui était pour moi une femme noire, aussi avec tout ce qu'elle vit en tant que femme noire, avec le racisme ordinaire qui appartient à la société. Et quand j'ai été au bordel, ben, je me suis rendu compte que le racisme aussi, il existait là-bas. Et dans le sens où, oui, il y en a qui effectivement préfèrent l'exotisme et d'autres qui refusent absolument de voir une femme noire. Et que donc, par exemple, dans un bordel, on dit on ne peut pas avoir plus qu'une femme de couleur dans le panel des filles qu'on présente.
Il faut le quota.
C'est absolument, je sais pas, je trouve ça absolument dingue et choquant.
Bah oui.
Et donc, effectivement, oui, il n'y avait pas une histoire d'avoir une blonde, une femme noire, et il y avait une femme, qui est le personnage d'Axel, qui était blonde ou pas blonde. Il y avait effectivement le personnage de Conso, et il y avait une femme plus âgée aussi avec une autre expérience de vie. Donc oui, ça faisait partie d'un principe de départ, de raconter trois histoires de femmes, différentes, mais qui sont reliées par un même secret, en fait.
Alors, il y a le regard que les hommes portent sur les prostituées dans cette maison close, mais il y a aussi plus globalement, et c'est un thème qui revient très régulièrement depuis le début depuis que je fais cette émission sur RFI, c'est justement la question de l'actrice noire dans le monde du cinéma, dans le monde de la culture, parce que beaucoup de gens nous expliquent, beaucoup de nos invités comédiennes notamment, qu'elles ont été cataloguées comme une actrice noire et donc on leur réservait un certain nombre de rôles et dont elles ne pouvaient pas se sortir. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez ressenti depuis le début de votre carrière, Annabelle Langrone?
Ben oui, oui, vraiment, vraiment, ouais, beaucoup. C'est une question importante à se poser, et la question à se poser, c'est à quel moment ça va changer. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai fait beaucoup de rôles de Kaira, donc de jeunes filles issues de quartiers dits sensibles. Et c'est très sympa, mais je n'ai pas fait mon école de théâtre pour jouer le même rôle toute ma vie. Et donc on dirait que quand on est non blanc, on va dire, on est cantonné à on va dire deux ou trois rôles maximum.
Mais il n'y a pas eu une prise de conscience relativement récente, en fait, là-dedans.
Je pense que ça va prendre du temps. Ce qui est en train de changer, c'est qu'il y a des gens qui prennent la décision de réaliser, donc des gens qui sont donc je dis non blancs et qui n'appartiennent pas forcément à une classe sociale qui a le loisir de faire du cinéma facilement. Il y a une prise de conscience, enfin en tout cas des changements, parce qu'il y a des gens qui veulent raconter leurs propres histoires eux-mêmes. Et je voulais juste rajouter par rapport à ces clichés, les conséquences malheureuses que ça a, c'est que du coup, quand un enfant noir, asiatique, arabe, voit à la télé ou au cinéma des rôles qui sont toujours dans des histoires d'échecs, on va dire, il va s'identifier ou elle va s'identifier à ça. Et donc la conséquence que ça a au niveau social, c'est qu'on se dit, bon, eh ben dans un film, on s'attend à voir la personne non blanche qui sera toujours dans une situation d'échec, ou alors qui viendra toujours d'ailleurs et qu'on va inclure dans, vous voyez, un environnement nouveau, elle devra s'adapter, alors que on est déjà tous là depuis un petit moment et il n'y a pas toujours des histoires dramatiques comme ça. Voilà.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois les appellent les filles de joie, les appellent les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les cent pas le long des rues, faire les cent pas le long des rues, c'est fatigant pour les quiboles. Parole, parole, c'est fatigant pour les quiboles. Elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de crôle. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de crôle.
La complainte des filles de joie, célèbre chanson de Georges Brassens, reprise ici par Émilie Loiseau dans VMDN sur RFI, Filles de joie, comme le titre du film de Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch, nos invités aujourd'hui en compagnie d'une de leurs comédiennes, Annabelle Langrone, qui joue donc le personnage de Conso, aux côtés de Noémie Lovski et Sarah Forestier. Filles de joie, il y a vraiment de la joie en elle, Frédéric Fontaine?
Il y a effectivement beaucoup d'ironie aussi dans ce terme qui a été inventé par des hommes, etc. Mais oui, moi je dis que bien sûr, il y a aussi de la joie dans les vies de ces femmes et de la force et de la puissance, mais oui, aussi de la joie, évidemment. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, et peut-être d'autant plus qu'il y a une difficulté à faire ce qu'elles font. S'il n'y a pas de la joie, il n'y a plus de vie. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Ouais. Moi, je le défends absolument.
Alors, il y a de la joie, il y a de la force, de la puissance, comme vous le disiez. Il y a aussi beaucoup de cris, de scènes, de disputes, et notamment avec Axel, hein, le personnage incarné par Sarah Forestier, par exemple, quand on la découvre au début du film, hein, dans son appartement, avec ses trois enfants et sa maman.
Tu ouvres cette porte, s'il te plaît ?
Non !
Bon, maintenant, ça suffit, donc ouvre la porte !
Je suis pas une
fois cruciforme. Axel,
deux secondes.
Les factures.
Pas maintenant.
Axel, maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Supplément d'électricité, facture de l'eau, facture de l'avocat. Et je dois faire des courses. Et Kélis, il a besoin de nouvelles chaussures.
Non, je suis pas Crésus en fait. Non, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il a grandi des pieds, tiens.
Ça grandit des pieds ?
Non.
Et moi aussi.
Bon, bah alors ?
Et moi aussi, j'ai besoin de nouvelles chaussures.
Ah, pourquoi ? T'as grandi des pieds, toi aussi ?
Il fait chaud. Je peux plus marcher. Et j'ai les pieds qui gonflent.
Et bah, tu mets tes pieds dans une bassine. Et tu vas à la piscine.
Tu crois que ça me plaît de faire le monde ? Axel, tu crois que ça me plaît de faire le monde ? J'ai ma dignité, moi aussi, hein ? Tu vois ?
Ah, tu resserres ça tout de suite, là ?
Non.
Mais tu ressembles à mamie, là.
ce qu'elle veut, hein.
Pas grave.
Eh ben si, c'est très grave. Donc, s'il te plaît, enlève-le.
Non.
Charline, enlève-moi ce maquillage.
Non. Je me déguise.
Bon, allez, on y va. Hop.
Je me déguise.
Tu viens, allez. On y va.
Ah, et la mère de famille, hein, celle qui quelques heures plus tard va se maquiller et devenir Athéna dans cette maison close de Belgique, ne veut donc pas que sa petite fille se maquille. Là aussi, ça en dit long sur la séparation et la frontière entre les deux vies et entre les deux mondes. D'ailleurs, je crois, Frédéric Fontaine, qu'à la base, le film devait s'appeler La Frontière.
Ouais, exactement. Et le film parle justement du fait que cette frontière s'effrite, mais parce que elle est impossible à tenir, c'est-à-dire inconsciemment tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose et le film montre ce moment de rupture où la frontière se brise, quoi. C'est-à-dire on peut pas avoir une double vie comme ça et la tenir aussi longtemps. Mais aussi la frontière pour moi m'a inspiré sur tout le travail du film parce qu'on est à la frontière tout le temps. Du correct, du pas correct, de ce qu'elles vivent. Et il y a quelque chose. Moi, je me suis senti toujours sur un fil à la frontière avec les actrices, au montage, toujours de me dire, voilà, comment je peux rester au plus près de ce que moi je sens et de ce que j'ai ressenti de ces femmes. Ben, je devais être à la frontière tout le temps. C'était impossible de faire autrement.
Mais c'est vrai que, comment est-ce que vous les avez dirigées, d'ailleurs, vos actrices, Frédéric Fontaine? Parce que je trouve que elles ont toutes, surtout Annabelle Langren et Sarah Forestier, une forme de jeu très, très animale. Vous avez voulu rechercher ça?
Bah moi, c'est franchement ces trois actrices, c'est pas des actrices qu'on peut diriger. C'est des actrices qu'on peut aimer, qu'on peut leur donner un espace pour qu'elles créent et voilà, moi je les ai pas dirigées, je les ai aimées et j'ai aimé ce qu'elles ont défendu et j'ai aimé les risques qu'elles ont pris et j'ai essayé de leur donner confiance dans le fait qu'elles pouvaient prendre des risques avec nous, mais elles m'ont énormément impressionné dans ce qu'elles ont osé faire, quoi.
Et vous les filmez d'ailleurs plutôt frontalement, hein.
Oui, c'est-à-dire que justement, c'est ce qu'on disait aussi, on n'a pas voulu les filmer les filmer d'en bas ou d'en haut. On les filme face à face comme ce qu'est un être humain et c'est ça qu'elles ont dû en tout cas traverser une palette d'émotions très, 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 c'est un grand écart, quoi, justement. Ouais. Et moi, je ne pouvais qu'être admiratif de, à chaque fois, le fait qu'elles osaient aller jusque dans ce que Anne avait écrit, quoi. C'est-à-dire, ce qui leur arrive, c'est quand même gigantesque, quoi.
Ce côté animal que j'évoquais à l'instant, Annabelle Langren, vous vous retrouvez dans ce mot d'animalité?
Oui, oui, parce que, en tout cas, pour parler du personnage de Conso, c'est quand même une bête curieuse, c'est un phénomène, quoi.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup ce personnage, j'étais triste quand le film s'est terminé. Parce que je l'aime beaucoup, cette fille, et je vais plus la revoir, malheureusement. Mais, elle a quand même une grande pulsion de vie. Elle veut vivre, elle veut aimer, elle rêve, voilà, à une vie différente. Et oui, tout ça, ça donne un personnage.
Jouer une prostituée, est-ce que c'est forcément un rôle très physique? Est-ce que c'est forcément par le corps qu'on entre dans le personnage?
Oui, surtout pour ce rôle-là, parce que à un moment à un moment Conso dit à une jeune collègue qui vient d'arriver dans la maison close, elle lui dit pute, c'est un métier d'athlète. Et c'est vrai parce que évidemment on le sait, hein, par rapport au pass, tout ça, c'est quand même très physique. Moi, quand je suis allée visiter donc la maison close avec Anne, par jour quand même, je ne sais pas combien elles ont de clients, mais avoir des rapports sexuels, je ne sais pas, 15 fois, 20 fois dans la journée, c'est quand même physique. Et puis il y a aussi le travail, il y a une scène dans le film aussi où donc on est présenté aux clients. Et il faut montrer ses atouts féminins, comme dit Noémie Lvovsky également. Mmh. Et tout ça, c'est des postures, c'est physique.
Et donc, elle joue des personnages, ces filles, pour attirer leurs clients, pour satisfaire leurs désirs et leurs fantasmes. Prenez pas mal, Annabelle Langren, la question que je vais vous poser, mais est-ce que d'une certaine façon, une prostituée dans un bordel, c'est pas aussi une comédienne?
Non, je prends pas mal du tout, mais complètement, c'est ça. Frédéric disait donc le film devait s'appeler au départ La Frontière, et il y a une frontière entre ce qu'elles sont quand elles rentrent chez elles dans leur petit appartement et le personnage qu'elles sont quand elles arrivent au bordel. Ce n'est pas, elles ont pas leur nom à elles, elles ont un autre nom, et il y a une mise en scène dans tout ça. Il y a une scène que j'ai tournée avec Nicolas Casalé, qui est celui qui joue le mari de Sarah Forestier dans le film.
L'ex, son compagnon séparé, oui.
L'ex-mari, où comme dans donc les maisons closes et les bars à hôtesses, on doit faire consommer du champagne au client tout en le charmant et en lui offrant une petite danse, un peu de pole dance. Et donc là, c'est un personnage complètement. C'est un personnage et c'est exactement ce que les clients veulent aussi. Ils veulent des femmes fatales qui soient complètement dans l'attente de ce rapport sexuel et qui soient offertes. Et voilà. Donc oui, c'est de la comédie.
Alors, puisqu'on évoquait les hommes dans le film, peut-être un petit mot à leur sujet, Anne Polisevitch, parce qu'ils n'ont pas vraiment le beau rôle, hein, vos personnages masculins, quand même.
Non, c'est clair. Moins qu'on puisse dire. Non, ils n'ont pas le beau rôle. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, franchement, les rôles ont été écrits. J'ai écrit ces rôles aussi en étant avec ces personnages-là. Quand on a tourné le film, on avait des super acteurs qui ont décidé de les prendre en charge et ils l'ont pris aussi, ils les ont pris complètement en charge. Oui, après, effectivement, ils ont pas le beau rôle. Ben, c'est pas les premiers rôles. Et déjà, on inverse le truc. Normalement, c'est eux les premiers rôles et puis les prostituées qui sont derrière. Là, on inverse. Et dans le milieu, et je veux dire, quand on parle de violence faite aux femmes, ben, on rencontre pas que des mecs qui sont que super sympas. Après, donc. Voilà, je sais que des fois, il y a des gens qui peuvent se dire... Et en plus, c'est pas un spoil, puisque ça commence comme ça, elle tue un homme.
Oui, on est bon en train d'enterrer un cadavre sous la pluie et dans la boue. Oui.
Elles sont en train d'enterrer un cadavre, et c'est vrai qu'il y a des gens, encore maintenant, que je sens qu'ils sont choqués par ça. Mmh. Et je me dis, ah super, vous êtes choqués, mais vous êtes pas choqués quand on commence chaque intrigue de série policière avec une femme qui est démembrée, violée, tuée, scalpée. Et des fois, je me dis, les scénaristes, ils ont une imagination pour faire des meurtres atroce sur les femmes, et c'est toujours un bon début de film, quoi, un bon début de série. Et là, on a décidé d'inverser le cliché et se dire, eh ben voilà, parce que ça avait un sens pour le reste de l'histoire, et parce qu'à un moment donné, ces femmes, eh ben oui, elles sont, je veux dire, le film n'est pas moral, il est même amoral, mais là, il est, il fait, je pense et j'espère, poser des questions. Et aussi, moi, ça me fait poser la question, comment ça se fait que ça peut choquer certaines personnes de se dire, ah, un homme est mort. Mon Dieu, quelle horreur. Alors qu'on se dit pas la même chose quand une femme est morte, et il y en a plein. Et aussi qu'on puisse se dire, ah oui, mais ils sont quand même pas super, les hommes dans le film. Oui, mais quand vous prenez des films où les femmes sont que des greluches, ça vous choque pas, ça, par contre?
La question est posée, mais effectivement, elle méritait de l'être. Et parmi les hommes, il y a Sergi Lopez, qui est un petit peu votre acteur fétiche, Frédéric Fontaine, qui a un tout petit rôle, mais qui a toujours cette présence là aussi très très forte, hein, comme dans l'ensemble de ces films. Dernière question pour vous, Frédéric Fontaine. Est-ce que les prostituées que vous avez rencontrées pour préparer le film dans cette maison close de Belgique, est-ce qu'elles l'ont vu, le film?
Là, Anne pourra peut-être mieux en parler.
Oui, c'est-à-dire que en fait... Moi, j'ai rencontré des femmes, qui ont bouleversé ma vie. Et comme je dis souvent, j'ai jamais autant ri au bordel que dans un endroit comme au bordel, et j'ai jamais autant pleuré en sortant. Comme disait Annabelle, c'est bouleversant parce qu'il y a tous ces paradoxes. Et il y a entre autres une des femmes que je continue à voir et qui est une des plus belles rencontres de ma vie, et qui a vu le film en étape de montage et qui l'a vu terminé. Après, les autres, malheureusement, femmes que j'ai rencontrées, ben je sais pas si elles l'ont vu ou pas, parce que voilà, c'est un milieu où les femmes bougent beaucoup, vu que ce sont des vies cachées, ben c'est compliqué, etc. Mais en tout cas, cette femme qui a vu le film et qui était vraiment impliquée, qui est sortie de ce milieu aussi, je pense, avec le film, elle nous a remercié parce que elle disait que c'était la première fois qu'on parlait d'elle comme ça.
Merci beaucoup à tous les trois, Annabelle Langron, Anne Polisevitch et Frédéric Fontaine, Fille de joie, à découvrir donc sur les écrans français.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Bonjour Marjorie Bertin.
Bonjour Jean-François.
Vous allez nous parler de jazz puisque vous êtes allé à la rencontre d'Erel Besson. 4 ans après l'album onirique et aérien Radio One et de nombreux concerts, la trompettiste, récompensée par le prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz, est en répétition en ce moment avec son quartet en vue de leur deuxième album.
Et pas n'importe quelle répétition, puisque c'était leur première depuis le début de la pandémie. C'est dans un studio chaleureux du 20e arrondissement de Paris que la trompettiste aux multiples talents, puisqu'elle est aussi violoniste, arrangeuse et compositrice, a donné rendez-vous à son quartet pour découvrir les morceaux qu'elle a composés pour leur deuxième album commun. Toujours accompagnée de la chanteuse suédoise Isabelle Sörling, de Benjamin Mousset au clavier et de Fabrice Moreau à la batterie, Erel Besson teste ses nouvelles compositions. Et malgré la pluie dehors, il flotte dans l'air de la joie, de l'humour et le plaisir de se retrouver. Benjamin Mousset et Isabelle Sörling.
Moi, franchement, je suis hyper content parce que quand même, c'est un des trucs qui m'a vraiment le plus manqué pendant cette pandémie, c'est de jouer avec les copains, partager le son. Donc là, dès les premières notes ensemble, voilà, je me suis laissé porter.
Je suis tout à fait d'accord avec Benjamin que c'est tellement un plaisir de jouer ensemble avec des autres.
Et si pour certains artistes, travailler virtuellement a été une solution pendant le confinement, pour le quartet d'Erel Besson, c'était inimaginable. Erel Besson et Benjamin Mousset.
Pour moi, le quartet, c'est le quartet tous les quatre. Je ne vois pas autrement.
Avec oui,
circule, avec un son qui circule, avec une écoute. Enfin, en fait, quelque chose. Ouais, c'est quelque chose qui circule en fait. On peut pas faire. Enfin, moi, je l'imagine pas chacun dans son coin. Bah, toi, t'enregistres ça, t'en... parce que non, lui, il va jouer d'une manière en fonction de ce que Isabelle, elle va chanter en fond.
Sur le moment.
Parce que l'approche de ce quartet, c'est vraiment un échange. Sur scène, par exemple, on est en arc de cercle pour se voir. Il y a vraiment quelque chose qui circule en fait.
La musique, en fait, c'est une musique basée sur le son, et le son, c'est la vibration de l'air. Il y a une déperdition infinie quand on passe au travers d'une vidéo.
Et c'est l'écoute. C'est vraiment, voilà. Ça passe par l'écoute tout de suite en fait.
Attendez, là je devais pas être en mi mineur du tout. Ça devait être mi 7.
Les musiciens prennent connaissance des partitions avec une marge d'improvisation plus grande que pour le premier album, Erel Besson.
Dans le premier disque, j'avais apporté des morceaux vraiment de manière assez fixe. Ouais, ça, j'avais vraiment un matériau, un répertoire que j'avais envie de jouer. Et là,
très autoritaire. Ouais,
voilà, ouais, voilà, ça a changé. Ouais. Donc, c'est un peu plus souple. Ouais. Non, et maintenant, j'apporte effectivement un morceau, mais chacun en fait met ce qu'il a envie, ce qui dedans. Et c'est ça que moi que j'adore. En fait, c'est qu'on construit un peu les morceaux ensemble. C'est ça qui fait la particularité aussi de notre musique, c'est que il y a vraiment de l'improvisation. C'est sur l'instant. Bah, aujourd'hui, vous avez pu vous en découvrir deux qu'on a tous découvert en même temps. Je les ai écrits, mais tout récemment, et c'était la première fois. Et puis, quand on voit éclore une musique comme ça, c'est très émouvant.
C'est aussi sur scène, pendant des concerts d'été, que ces musiciens qui adorent jouer ensemble devaient travailler à ce disque. Fabrice Moreau.
Les concerts sont une occasion idéale de développer des nouvelles choses, un nouveau répertoire, d'essayer plein de choses et de faire mûrir la musique. Donc, on n'a pas ces concerts, donc. Ce sera un manque, mais pourquoi pas aussi, ça va rendre aussi peut-être la musique fraîche.
L'enregistrement devait être prévu un peu plus tard, en septembre, octobre, et pour des questions de calendrier, il est un petit peu plus tôt en août. Mais en fait, je trouve ça pas mal de jouer en août, parce que cet été, on va pas avoir du tout de concert, a priori. Et du coup, je me dis qu'en août, on sera super content de jouer.
Ouais, c'est
je
ça.
Me dis qu'on va avoir un truc qu'on n'a jamais eu en fait dans notre vie, c'est tellement inédit, on n'a jamais pas fait de concert pendant 3, 4, 5 mois.
Reportage de Marjorie Bertin pour VMDN. Une pause, le journal. Et on se retrouve demain avec le professeur Jean-Noël Fabiani et le dessinateur Philippe Bercovici. Ils nous racontent en bande dessinée l'incroyable histoire de la médecine. C'est d'actualité, c'est aux éditions Les Arènes. Et vous m'en direz des nouvelles.